Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
Prévention des abus, prendre soin de soi et des autres, c'est le thème de la troisième journée de formation organisée par le Pôle provincial contre les abus. Elle se déroule jeudi 23 janvier et elle s'adresse aux prêtres religieux et religieuses et aux laïcs en mission ecclésiale. Si tu n'as pas d'égard pour toi-même, pour qui d'autre pourrais-tu te montrer bon ? Interrogeait Saint Bernard de Clairvaux. Cette citation introduit cette troisième journée de lutte contre les abus dans l'Église. Pour nous présenter le chemin parcouru et la teneur de ce combat, je reçois aujourd'hui Monseigneur Xavier Darode, responsable du pôle provincial contre les abus. Bonjour Monseigneur.
Bonjour à vous.
Merci d'être là et nous attendons Paul-Emmanuel Bigot, qui est dans les embouteillages, mais qui va nous rejoindre très prochainement. Il est formé à l'Institut catholique de Paris à la gestion des abus. Il est titulaire d'un certificat en victimologie clinique à l'Université de Liège. Il a coopéré au pôle provincial. Il coopère, en fait, depuis 2 ans avec vous, Monseigneur, et il a organisé avec vous cette journée. Pourquoi avez-vous fait ce choix de traiter ce sujet, prendre soin de soi et des autres ?
Parce que, en fait, cela fait suite à plusieurs années de préparation. C'est la troisième édition de cette journée provinciale. Beaucoup, se demandaient si c'était pas la même chose à chaque fois. Et en fait, la thématique, et bien évidemment, tous les intervenants sont tous systématiquement différents. La première année, c'était juste dans la ligne de ce qui avait secoué considérablement notre Église et la société, ce rapport de la SIAZ, qui donc montrait l'ampleur des abus. Et donc, je pense qu'il était nécessaire d'avoir justement cette réflexion sur les abus dans l'Église, quelle était notre position, quels étaient les moyens d'action que nous pouvions mettre en place. L'année suivante, on a travaillé sur les abus dans la société, puisque c'était justement la publication du rapport de la CIVIS,
oui, la CIVIS.
Qui était cette instance ministérielle, interministérielle, justement, qui travaillait sur la prévention des abus, qui a montré donc qu'un adulte sur 10 en France a été abusé au cours de sa vie, et donc montrer l'ampleur de ces abus, pas simplement dans l'Église, mais surtout dans la société, et montrant que, notamment, ces abus avaient lieu dans différents milieux. La famille, évidemment,
oui, beaucoup.
Les modèles d'éducation, des associations, et évidemment l'Église. Et là, on est dans maintenant une troisième phase, qui est vraiment ce travail en profondeur sur la prévention. Le pôle de Toulouse, qui a été voulu par les évêques, justement à l'unanimité des évêques de la province de Toulouse.
Donc cette province qui correspond à l'ancienne région Midi-Pyrénées.
Exactement, voilà, 8 diocèses.
De l'Occitanie.
8 diocèses, et donc qui ont voulu créer cette structure un peu originale, qui est à la fois qui travaille sur la gestion des cas d'abus, mais aussi sur la prévention, essentiellement sur la prévention. Et donc, il nous a semblé nécessaire, justement, de travailler sur cette prévention des abus, en montrant que, et ça c'est mon expérience, c'est l'expérience de tous ceux qui interviennent sur ces questions d'abus,
ils sont consécutifs. Qui font partie des cellules d'écoute aussi ?
Bien sûr. Ouais. Et notamment aussi des délégués épiscopaux à la protection, à la lutte contre les abus, ce qu'on appelle les DEPLA, ce qui est une fonction un peu nouvelle dans nos diocèses, mais qui est extrêmement importante parce qu'ils ont justement cette mission de travailler à la lutte et à la prévention des abus dans chacun des diocèses. Et donc avec toute cette équipe, je pense qu'on ne se rend pas compte quand on est à l'extérieur, et puis on n'a pas beaucoup communiqué là-dessus, parce que c'était pas le moment, on était dans cette phase de construction, on était dans cette phase aussi de compréhension des enjeux.
Parce que c'était quand même un véritable tsunami. Hein.
Oui. Oui, oui, et ça l'est encore.
Et enfin, ça l'est encore, il faut un travail de fond à mener.
Un tsunami, l'image que vous prenez est très bonne, il est destructeur à la fois dans la vague qui vient frapper le rivage, mais également quand l'eau se retire. Et donc là, la reconstruction est lente. Il faut qu'elle se fasse sur des bases saines. Et justement, à l'issue d'un tsunami, on publie des nouvelles normes sur la façon de construire, sur la façon de penser les choses. Et c'est exactement la même chose qui se passe de fait dans l'Église, puisque désormais, les évêques ont pris la résolution de demander à tous ceux qui interviennent auprès des mineurs et des personnes vulnérables un extrait de casier judiciaire, la signature d'une charte de bien-traitance et également la nécessité de se former à la prévention des abus. Mmh. Donc ce sont ces trois dimensions aussi qui nous animent. Et voilà. Et donc cette journée trouve sa place dans ce contexte-là, dans cet énorme travail de fond. Je pense qu'il est important pour les auditeurs de comprendre que nous avons, au cours de ces dernières années, formé plus de 2500 personnes justement à la prévention des abus et que nous avons vérifié la disponibilité, l'idonéité, c'est le terme technique, mm-hmm. des personnes qui interviennent auprès des mineurs et des personnes vulnérables. Nous ne sommes pas parfaits, mais c'est un processus dans lequel nous sommes résolument engagés. Mm-hmm. C'est la volonté des évêques, c'est la volonté évidemment du Saint-Père, il l'a exprimé. Mais je tiens à saluer le courage des évêques de la province parce qu'ils ont mobilisé des moyens, ils ont mobilisé des hommes, ils ont eu le courage d'affronter. C'est pas parfait, mais nous sommes en voie.
Et puis vous apprenez aussi
bien sûr.
Au fur et à mesure. Est-ce que vous avez déjà, Mgr Xavier Darod, un retour sur cette demande que vous faites à tous les intervenants auprès des jeunes de publier un extrait, enfin de fournir un extrait de casier du judiciaire et de signer une charte? Est-ce que vous avez déjà un petit retour positif ou quelque chose qui vous dit que
on
vous êtes sur
tout.
Le bon chemin en tout cas?
On a de tout et on a donc on a par moment des réactions négatives évidemment qui me disent mais à quoi bon ? Ça fait 30 ans que je fais ça, on ne me l'a jamais demandé, cette suspicion généralisée, etc., etc. Je l'entends. Mais voyez-vous, la critique qui a été très forte, c'était que l'Église essayait de résoudre ses problèmes en interne. Si nous voulons effectivement sortir de cet entre-soi, fournir une objectivité, la seule façon que nous ayons à notre disposition est effectivement de vérifier l'extrait de casier judiciaire. La loi change. En 2025, désormais, pour pouvoir intervenir même de façon bénévole auprès de personnes vulnérables, de personnes âgées, tout intervenant devra fournir un extrait de casier judiciaire. Donc, il y a une évolution de l'Église, il y a une évolution de la société. Ce n'est pas un flicage parce que le B3 est un extrait de casier judiciaire minimal,
mais
c'est une sécurité, c'est une façon de dire nous collaborons, nous intervenons aussi dans un contexte qui est plus large que celui de l'Église, et nous ne pouvons pas... c'est aussi marquer cette prise de conscience. Voyez-vous, la crise des abus n'est pas simplement... la crise des responsables, de ceux qui n'ont pas pris les mesures. Ce sont aussi ceux qui n'ont pas écouté. Ce sont ceux qui ont vu et qui n'ont pas voulu dire. Ce sont ceux qui savaient, mais en disant « bon, on dit rien ».
On le voit bien avec l'affaire de l'abbé Pierre.
Et en fait, nous serions en capacité tous de pouvoir intervenir et d'avoir cette prévenance.
Prendre soin des autres.
Un laïc ne peut pas mettre un prêtre dans une situation impossible où, en fait, on le laisse seul dans une salle avec des mineurs, etc. Dans le contexte qui est le nôtre, on peut le déplorer, mais c'est celui-ci. On ne peut pas ainsi exposer la réputation de quelqu'un. Les prêtres que je rencontre sont des gens généreux. Ils ont donné leur vie. Ils ont essayé de construire quelque chose. Leur réputation peut être mise à mal dans le système actuel. Leur réputation peut être mise à mal très, très vite. Et donc, cette prévention, cette prise en compte de nos fragilités,
c'est une prudence, finalement.
C'est une prudence, et c'est le but de cette journée aussi, de permettre aux uns et aux autres d'appréhender, d'avoir conscience, en fait, de nos fragilités.
Oui. Une quinzaine d'intervenants vont prendre la parole pendant cette troisième journée de formation contre les abus dans l'Église. Selon quels critères les avez-vous choisis, Monseigneur ?
Selon des critères absolument pas objectifs.
Allons bon.
Non, parce que je crois que c'est beaucoup plus intéressant quand vous faites parler des gens qui parlent de ce qui les intéresse, de ce qui les anime, que de faire parler des techniciens ou de faire parler des gens spécialisés. En l'occurrence, on a choisi des gens qui, de fait, avaient été confrontés un jour ou l'autre à la question des abus, qui en avaient tiré un enseignement.
Donc des personnes de terrain.
Ce sont des personnes de terrain, mais il y a aussi des théoriciens, il y a des médecins, il y a des prêtres, il y a aussi des religieux, des religieuses. Il y a beaucoup de femmes.
Oui, c'est vrai. J'ai vu.
Oui, c'est un des soucis d'équilibre, justement. Toute cette journée sera centrée sur cette nécessaire attention à nos besoins fondamentaux. Et donc, la façon dont on les a choisis, c'est donc pour la passion qui les anime, mais qui est une passion raisonnée, matinée
par
l'expérience.
Oui, parce qu'il y a un travail de recul.
Il y a un vrai travail de recul. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont allés visiter, par exemple, des communautés qui étaient en difficulté, qui ont été commissaires apostoliques, qui ont été visiteurs canoniques, qui ont ce recul. Ce sont des experts qui travaillent justement avec des auteurs d'agressions sexuelles. Ce sont des prêtres qui accompagnent des prêtres en difficulté. Ce sont toute cette multitude d'éclairage. Et donc, l'un des éléments essentiels à comprendre, c'est que nous n'aurons pas une position commune. C'est ce kaléidoscope qui est le reflet aussi de la société, mais qui est aussi le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de l'Église, et qu'il est important pour moi de pouvoir honorer, de pouvoir respecter. Mmh. Et c'est de pouvoir accompagner cette réflexion, cette intelligence. Je salue notamment le travail de Monseigneur Jean-Pierre Battu,
l'évêque auxiliaire de Toulouse,
qui est l'évêque qui a été chargé d'accompagner le pôle provincial.
Donc ce fameux déplat.
Alors non, le déplat est au niveau du diocèse, de chaque diocèse, au niveau de chacun des huit diocèses, et le Monseigneur Battu, comme évêque, n'est pas délégué épiscopal, mais est justement celui qui a cette vigilance au nom des évêques, et qui a eu cette délicatesse d'encourager, de stimuler, et de dire c'est quelque chose d'important. Il a cette prévenance en disant, voilà, c'est vraiment quelque chose pour le bien de l'Église, pour le bien de la société. Nous avons une responsabilité vis-à-vis de la société. Je ne sais pas si vous mesurez l'importance, par exemple, que nous avons à travers l'enseignement catholique. Nous formons des générations entières d'élèves. Cette appréhension dès l'enfance du respect de soi, de la question du consentement. Ce sont des générations qui sont très frappées par la pornographie qui est accessible partout. C'est ainsi qu'ils apprennent la sexualité. Il fut une époque où on tournait les pages du Larousse pour essayer de comprendre comment ça marchait. Maintenant, tout est accessible directement. Ça change leur façon.
Et de façon déformée, en plus. Oui.
Et donc de façon violente.
Et violente, oui.
Violente.
Oui, oui. Monseigneur, plusieurs regards se croisent pour aborder la thématique du prendre soin de soi et des autres. Vous l'avez dit, il y a des médecins qui vont intervenir, il y a aussi une approche biblique, il y a aussi des témoignages, vous allez recevoir des victimes. Et finalement, ça permet aussi de montrer qu'il y a des laïcs qui prennent ce sujet à bras-le-corps et qu'il n'y a pas, parce que c'est une critique qu'on entend, il n'y a pas que des prêtres qui sont, ou des évêques, puisque vous avez signalé Monseigneur Battu, des évêques qui sont un peu en surplomb sur la question des abus.
Ils ne sont certainement pas en surplomb.
Mais c'est une critique qu'on entend.
Oui, mais moi qui me situe souvent en proximité avec eux, je vois le poids que ça représente pour eux. Voilà, le système n'est pas parfait et donc je ne suis pas du tout en train de plaider, mais c'est l'expérience qui est la mienne de voir justement combien, en fait, cette collaboration que nous pouvons avoir est saine et nécessaire. Et donc, effectivement, Monseigneur Battu est là pour jouer son rôle d'épiscope, de vigilance, d'encouragement. Et il le fait très bien. Moi, je suis là parce que de fait, j'ai une expérience qui est longue. J'ai été formé aux États-Unis sur ces questions d'abus. J'ai été le premier au sanctuaire de Lourdes à publier des normes de prévention et de protection des mineurs dès 2014. Et donc, il y a une longue expérience en la matière. On est toujours en train d'apprendre. Mais ce que je trouve remarquable, c'est de voir combien cela petit à petit se diffuse. Et donc, on n'est pas dans la publication simplement de normes, on est dans l'appréhension d'un changement de culture, dans une appréhension d'une bienveillance. Et alors, évidemment, il y a des situations où il faut des sanctions, il faut une répression. Et ça, c'est tout le travail des canonistes. Ce n'est pas le mien.
Est-ce que vous remontez ce genre d'informations justement aux canonistes?
Ce sont les cellules d'écoute et qui font tous les signalements qu'il convient de faire. Oui.
Et donc ça permet aux canonistes de
Mon travail est davantage de former les membres des cellules d'écoute à l'écoute elle-même, à l'audition des uns des autres. Nous ne sommes pas, de ce point de vue-là, dans un travail d'enquête, mais nous sommes... dans l'appréhension d'une souffrance et donc dans ce travail progressif de guérison pour les victimes, mais aussi pour l'Église, pour qu'elle apprenne de cette expérience-là et de ces témoignages. C'est quelque chose, voyez-vous, que je voudrais vraiment dire, les victimes ne sont pas extérieures à l'Église. Elles en ont souffert, elles ont subi ces difficultés-là, mais leur quête spirituelle demeure. Et donc, elles ont besoin notamment d'entendre que cette façon de chercher Dieu à travers les souffrances, à travers ses peurs, à travers ses blessures incommensurables, fait aussi partie de l'expérience de l'Église et de l'expérience spirituelle de Dieu.
Il y a quand même des victimes qui claquent la porte à l'Église, qui ne veulent plus en entendre parler.
Bien sûr. Oui.
Qu'est-ce que vous leur dites?
Que ce qui est fondamental pour moi, c'est qu'elles demeurent en quête. Voyez-vous, la grâce passe évidemment par les sacrements, par l'Église, etc. Mais je sais, j'ai appris aussi de mes cours de théologie que le Seigneur ne se limite pas, que la grâce du Seigneur ne se limite pas à ses instruments de la miséricorde. Voilà. Et donc, s'il trouve un autre équilibre, un autre cheminement, c'est sans aucune difficulté. Je pense que chacun avance à son rythme, chacun avance à sa mesure et à sa capacité.
Nous accueillons notre deuxième invité, Paul-Emmanuel Bigot. Bonjour.
Bonjour.
Vous n'avez pas besoin de casque, rassurez-vous. Nous vous entendons très bien. Merci d'être là. Nous avons, pendant cette première partie d'émission avec Mgr Xavier Darod, présenté cette journée de formation, cette troisième journée de formation organisée par le pôle provincial contre les abus dans l'Église. Et Monseigneur a expliqué le choix des intervenants et comment cette journée se positionnait dans la lignée des deux précédentes journées. Alors, maintenant que vous êtes là, nous allons vous laisser reprendre un peu votre souffle. Nous allons faire une petite pause musicale pour vous laisser arriver. Et puis nous nous retrouvons juste après. Nous allons écouter le Lacrimosa du Requiem de Mozart, interprété par le chœur et l'orchestre symphonique de Lucerne, dirigé par Claudio Abbado.
présence. Vivante Église, Isabelle Duché.
Prévention des abus, prendre soin de soi et des autres, c'est le thème de la troisième journée de formation organisée par le Pôle provincial contre les abus. Elle se déroule le 23 janvier 2025. Les invités de Radio Présence sont Mgr Xavier Darode et Monsieur Paul-Emmanuel Bigot. Je vais peut-être me tourner vers vous pour cette première question pour vous. La question des abus est un sujet délicat, tant l'incompréhension demeure. De nombreuses victimes d'abus vivent dans un état de sidération, empêchant de ce fait la compréhension et la crédibilité de leurs témoignages. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette difficulté ?
Oui, sur la sidération, c'est vraiment un processus qui se passe quand on vit un événement traumatique tellement intense que le cerveau, l'organisme vient bloquer un peu l'information, ce qui vient protéger en fait la personne sur l'instant. Pour prendre une nuage, c'est un peu comme un compteur qui va sauter. Les plombs vont sauter pour se protéger face à un événement qui est inentendable, inenvisageable sur l'instant, mais qui est un événement qui va avoir des répercussions du coup pendant les années à venir, qui va provoquer aussi des phénomènes aussi de dissociation, c'est-à-dire que la personne va, face à cet événement qui est tellement important, tellement traumatisant, va avoir l'impression d'être détachée des fois même de son corps, ce qui va rendre en effet extrêmement difficile dans une première partie pour elle de s'exprimer, de prendre conscience, et après la deuxième partie, la difficulté aussi de pouvoir trouver un lieu ou une personne pour être écoutée.
Et cette prise de conscience est d'autant plus difficile que quand les victimes parlent, leur témoignage peut être décousu et donc elles peuvent ne pas être comprises, ne pas être crues. C'est aussi ça la difficulté.
En effet, sur le témoignage, il y a la difficulté, on peut s'imaginer pour un enfant de vivre un traumatisme quel qu'il soit, si on essaie de même de se souvenir nous-mêmes de nos événements d'enfance, même heureux, c'est compliqué de construire une histoire des fois complètement cohérente. Si en plus on rajoute à ça un événement traumatique, c'est d'autant plus complexe de trouver des fois les bons mots, les mots justes qui arrivent à nommer en fait l'innommable. Et la difficulté après, c'est au niveau des personnes à qui l'enfant va se confier, s'il peut le faire, c'est la difficulté d'arriver à l'accueillir, à ne pas être dans le déni.
Et ça, c'est effectivement un travail, mais maintenant une attention qui est plus importante aujourd'hui. À travers le travail des cellules d'écoute, vous constatez l'engrenage qui aboutit à un phénomène d'abus. Comment repérer le commencement de cet engrenage ? Et puis après, vous nous direz comment on peut le stopper ? Qui veut répondre à cette question ? Monseigneur ?
C'est toute la difficulté, c'est que... un abus sur mineur, donc un acte de pédophilie, est un crime. On n'a pas nécessairement de signaux d'alerte là-dessus. Néanmoins, on se rend compte après coup que ces abus sont souvent commis dans des situations de séduction, d'emprise, de pouvoir, de... voilà. Donc une part d'action que l'on peut avoir pour prévenir ces abus, c'est justement de travailler sur ces premiers signaux faibles. Mais nous n'échapperons pas à un pervers. Nous n'échapperons pas à cette perversité de l'humanité. Il ne faut pas croire que nous arriverons un jour dans une société parfaitement policée. Elle serait intenable.
Oui, c'est vrai.
Elle serait complètement normée et on perdrait complètement notre âme. Et donc, il y a toujours cette fragilité de l'homme et de notre humanité. Et en revanche, on peut être attentif à justement construire une attention les uns envers les autres. Donc c'est repérer des situations dans lesquelles quelqu'un peut éventuellement se mettre sans s'en rendre compte lui-même et dire là je crois que c'est pas très juste, être attentif à un équilibre de vie, être attentif à prendre en compte nos besoins les plus fondamentaux. Voyez-vous, on nous a appris parfois à tenir quoi qu'il en coûte, à serrer les dents.
Vous parlez en tant que prêtre.
Et même dans la société.
Et même dans la société.
Et même dans la société. C'est une disposition assez... Pour moi qui suis assez cosmopolite, c'est quelque chose qui est assez janséniste et assez français. Et donc nous n'affrontons pas volontiers en fait les difficultés et les vraies questions. Et donc... je pense qu'il est nécessaire justement de pouvoir dans ce processus de prévention être attentif aux besoins les plus fondamentaux, voilà. Par, ce qui comporte par exemple pour un prêtre d'être attentif à ce qu'il ait des lieux de repos, un rythme qui lui permette d'exprimer sa personnalité, ses passions, qu'il ait des amis. Il est légitime d'avoir des amis. Et il est extrêmement difficile pour un prêtre d'avoir des amis dans sa paroisse. Mmh. Parce qu'on est dans une situation qui n'est pas... on n'est pas copain-copain avec ses paroissiens. Voilà. Oui. Et donc, c'est tous ces mécanismes-là de bienveillance, d'attention aux uns et aux autres qu'il me semble devoir mettre en place. Et c'est un changement culturel par moment.
Oui, c'est ça. Une des intervenantes de cette troisième journée de lutte contre les abus sera le docteur Anne-Hélène Moncani, qui est présidente de la Fédération des CRIAVS, le centre de ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles. Donc là, finalement, son travail permet de comprendre l'enchaînement progressif des abus. C'est bien ça?
Ça permet aussi de comprendre avec le CRIAVS... qu'est-ce qui se passe dans la psyché, dans la personnalité des personnes autrices d'abus, puisqu'en fait le panel est assez, des fois assez large. On l'a vu notamment avec le rapport de la CIVIS, donc le rapport interministériel dont parlait Mgr Xavier Darod au début de l'émission. Ce n'est pas seulement des personnes qui ont des attirances pédophiles qui commettent des crimes. Qui posent des actes pédocriminels, c'est aussi des fois des personnes, des personnalités qui, dans un moment donné, dans un espace, dans un lieu donné, vont saisir une occasion, vont saisir l'occasion, des fois, d'abuser de leurs enfants, d'enfants qui sont proches de eux. Et ça, il faut pouvoir essayer de le comprendre pour sortir, pour voir ces signes faibles dans la société, dans l'Église, dans les familles, mais aussi... aussi des signaux faibles du coup qui émanent, je pense, des enfants eux-mêmes quand ils n'arrivent pas à s'exprimer. Et c'est là où des apports alors, du CRIAVS ou d'autres experts médecins et autres peuvent aider peuvent nous aider justement à poser un regard ajusté pour voir ces signaux faibles et ainsi agir et aider la parole à se libérer.
Si vous me permettez, je voudrais prendre une image. Voyez-vous, quand un médecin pose un diagnostic, il vous dit « vous avez telle maladie », et effectivement, vous vous rendez compte après coup que tout était là. Les signaux étaient là, mais vous n'aviez pas la capacité de les déchiffrer, de les mettre ensemble, et de pouvoir nommer. C'est du même ordre. C'est-à-dire que il faut que nous développions cette capacité à voir la situation d'un enfant qui progressivement s'isole, de voir la situation d'un enfant qui se dissocie, c'est-à-dire qui est dans des actes de violence, dans la drogue ou dans des choses comme ça, de plus en plus, en se demandant « mais pourquoi le fait-il » Et non pas en disant « de toute façon, c'est terrible, c'est son caractère, il est foutu, etc. » Pourquoi le fait-il ? J'en prends la mesure, moi, à titre personnel, pour un certain nombre de mes cousins, donc des gens très proches de moi, je me disais toujours, bon ben oui, il est incapable, il ne sait pas faire, voilà. Et en fait, eux m'ont révélé qu'ils avaient été abusés. Personne dans la famille n'était d'une part au courant, personne ne le savait, n'en avait pris conscience, et personne ne s'était posé la question. Et donc... c'est ça, c'est cette prise de conscience, tout d'un coup, lorsque nous sommes capables de nommer les symptômes, on découvre effectivement la maladie, et là, de la même façon, sur la question des abus, nous devons avoir, construire petit à petit, cette possibilité construire cette analyse qu'effectivement, s'il y a quelque chose qui ne va pas, ce n'est pas nécessairement la faute de cet enfant, c'est que peut-être lui-même a subi des choses.
Il y a aussi de l'autre côté cette nécessité de prendre soin de soi, et donc ça concerne aussi les auteurs. Comment peut-on déterminer ce qui ne va pas, ce qui est déséquilibré, et comment les aider? Parce que parfois, il faut un médecin qui dise voilà, de quelle maladie vous souffrez, mais à côté de ça, il faut accepter de se faire soigner.
C'est pour cela que, voyez-vous, cette journée, je vous ai dit que c'était un kaléidoscope.
Oui.
Donc nous allons partir de situations de victimes, et nous entendrons aussi la voix de personnes qui ont subi des abus, mais nous entendrons aussi la voix d'un prêtre qui accompagne des prêtres qui sont dans des situations de difficulté ou qui sont dans des procès en cours de jugement, de procès canonique ou civil. Et donc, si vous voulez, on tient à la fois la situation des victimes, on tient aussi la situation des abuseurs, présumés ou réels, on tient également la situation de la justice et de la société, et c'est cette complémentarité de perspectives qui, moi, m'intéresse. Un tissu est fait de fils de trame, et de fils qui s'entrecroisent et qui n'ont pas nécessairement toutes les couleurs, et c'est ce qui fait à la fois la beauté d'un motif, mais aussi la souplesse du tissu. Et donc, plus nous serons capables d'intermêler les uns et les autres en les respectant, et il est légitime que tous n'aient pas la même perspective, et il est légitime que tous que nous n'arrivions pas nécessairement à un consensus. Mais cette prise de conscience, et ce qui va permettre justement de changer la culture.
Alors vous avez beaucoup parlé des mineurs, Monseigneur, mais il y a aussi la situation des abus, et notamment des abus spirituels, des abus psychologiques sur des personnes majeures. Et on le voit, on en entend parler dans des communautés religieuses. Comment être attentif aussi à ces signaux? Pierre-Emmanuel Bigot,
Justement, au niveau de la journée de ce jeudi, on va accueillir la prière des bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre, qui donnera son témoignage de vie personnelle, de vie consacrée sur cette situation-là, parce que c'est une situation qu'elle-même et ses sœurs ont vécue dans leur communauté à Montmartre il y a quelques années. Après, comme élément, ce qui ressort souvent sur les abus spirituels, et sous toute forme d'abus, il y a une notion de pouvoir, il y a une notion de confiance. Il y a un abus, donc il y a l'usage non approprié de la confiance et du pouvoir. Et c'est ce qui se passe quand il y a un abus spirituel, c'est que petit à petit, des systèmes se mettent en place qui vont réduire la liberté. Et les personnes vont même plus se rendre compte que leur liberté est réduite. Il y a certaines communautés, ils ne peuvent plus prendre contact avec leur famille. Ils sont obligés de demander est-ce qu'ils ont le droit de lire un livre, etc. Donc, il y a pour certaines parts une infantilisation, des fois, mais qui se fait progressivement. J'entendais dernièrement un reportage où une ancienne religieuse expliquait, elle donnait l'image d'une grenouille qui est, pour la faire cuire, on la jette pas dans l'eau brûlante, on la met dans l'eau et puis on fait monter petit à petit la température de l'eau jusqu'à la cuire. Et c'est un peu la même idée, des fois, avec les abus des abus de confiance qui découlent des fois des abus spirituels, c'est que petit à petit la confiance se tisse et la personne autrice de ces abus vient se servir de l'autre comme d'un objet pour assouvir ses désirs, ses fantasmes des fois, et des fois sexuels.
Qu'est-ce qui pourrait, par exemple, dans une communauté, s'il y a cette situation, qu'est-ce qui pourrait aider les autres membres de la communauté qui verraient peut-être de l'extérieur cette relation d'abus spirituel? Qu'est-ce qui pourrait les aider à être attentifs et à prendre soin justement de l'autre, auteur et victime?
Eh bien, je commence à répondre et Paul-Emmanuel complétera volontiers. C'est d'abord le respect du droit.
Oui, tout simplement.
C'est le respect du droit, le respect de la personne. On a un droit canonique, on a des procédures dans l'Église. Et si déjà on était attentif à cela, alors le droit canonique n'est pas une matière parfaite, etc. C'est, même si c'est inspiré de notre doctrine, de notre foi, c'est quand même une construction humaine. Mais il y a des procédures, il y a des choses. La difficulté, voyez-vous, c'est lorsque l'on outrepasse, en fait, ces procédures, ce droit légitime, et puis que, très souvent, on se met dans des situations où l'on confond la fonction, la mission et les postures. Je m'explique. Faute de personnel, faute de ressources, on assume tout. On devient à la fois l'enquêteur, l'avocat de la défense, le procureur, le juge, l'exécuteur de la sentence, et tout cela toujours pour le bien de la personne et le bien de l'institution. Et comment pouvez-vous, voyez-vous, articuler toutes ces fonctions-là si elles ne sont pas distinguées ? On est dans des conflits internes qui sont insurmontables. Et donc l'objectivité requiert justement cette altérité. Donc respect du droit, respect des fonctions, respect des missions, la prise en compte de l'altérité. Je ne sais pas si Paul-Emmanuel veut compléter, mais...
Ça peut être aussi le respect de la règle. Alors sur une communauté religieuse, des fois, il y a des règles qui sont écrites depuis des centaines d'années, qui évoluent et qui s'adaptent, mais qui sont des fois très... qui sont bien posées pour justement définir le rôle, je sais pas, du confesseur, du prieur, du responsable du noviciat, etc., pour ne pas entremêler les choses, parce qu'on sait qu'il y a des limites. Et après, il faut pouvoir avoir des pouvoirs et des contre-pouvoirs. Donc, dans un système de gouvernance, il faut des personnes qui prennent des décisions, et puis il faut d'autres personnes qui puissent évaluer ces décisions, qui puissent se poser des questions si les décisions sont bien prises. Et pour prendre des exemples de ces dernières années, je pense au cas des frères Philippe, notamment, des personnes qui étaient en lien avec des communautés, mais pas totalement en lien, mais suivies par certains, mais finalement pas suivies, parce qu'on ne savait pas sur qui reposait la responsabilité. Et certaines personnes, du coup, dans leur fonctionnement, usent et abusent de ces zones de flou, parce que les règles, à un moment, ont été... mise de côté ou mise à mal. Il est important donc de pouvoir s'y repencher régulièrement, et c'est ce que font, et c'est ce qu'on fait dans la prévention, pour essayer de se redire, est-ce que cette règle est bonne, est-ce qu'elle est juste, et est-ce qu'elle a été prise par l'ensemble de la communauté.
C'est quelque chose qui est très important, ce que vient de dire Paul-Emmanuel, c'est que dans une communauté, il puisse y avoir un lieu institutionnel où une parole contraire puisse se faire entendre, sans être menaçante pour celui qui la profère, ni qu'elle soit menaçante pour celui qui la reçoit. Et donc ces mécanismes de contre-pouvoir, d'équilibre, tout simplement, existent dans les ordres anciens. Parce qu'ils ont été matinés par l'histoire,
oui,
par les
difficultés,
parce que...
Ouais.
Exactement. Et donc c'est tous ces mécanismes-là qu'il s'agit simplement... De mettre en œuvre.
Alors, et on va terminer là-dessus, mais ça peut être difficile aussi. Par exemple, dans un service diocésain, il y a aussi des cas d'abus spirituels et d'abus psychologiques. Et là, il n'y a pas ce système de contre-pouvoir.
Et c'est justement là où il faut être attentif. Comme responsable de l'Église, quand on me dit, mais il n'y a pas de problème chez moi, je ris. Non, en fait, je ne ris pas. Parce que, en fait, ça signale que la remontée des difficultés
ne se fait pas.
Et donc, c'est un signal d'alerte.
Merci beaucoup. Merci, Monseigneur Xavier Darod. Merci, Paul-Emmanuel Bigot. Je rappelle donc cette troisième journée de formation organisée par le Pôle provincial contre les abus le 23 janvier à l'espace Filoté à Toulouse. Une journée proposée aux prêtres, aux religieux et religieuses et aux laïcs en mission ecclésiale sur le thème prévention des abus, prendre soin de soi et des autres. Et c'est une troisième journée. Ça ne veut pas dire que c'est là même que les années précédentes. C'est vraiment la suite. Merci à vous deux.
Merci.